Les actualités via 95FM.
Ici Mark Bryson, voici votre 7 jours en 7 minutes. Des organismes de la région déplorent qu'ils aient finalement moins d'argent que prévu pour lutter contre l'itinérance. Ensemble, ils dénoncent qu'une partie de l'argent qu'ils devaient recevoir se retrouvera finalement davantage à Montréal que dans les régions. Pour le centre du Québec, ce sera finalement 249 000 $ plutôt que les quelques 627 000 qu'avaient demandé les acteurs du milieu. La directrice générale du Comité régional en développement social du centre du Québec, Jeannick Tessier, a assuré que la région a aussi des problèmes d'itinérance.
Ce qu'on aime moins, c'est pas ça qui nous dérange, c'est le fait que là, c'est les régions sont au détriment de les sommes octroyées à Montréal. T'sais, Montréal ramasse 5 millions de l'enveloppe. C'est, pour nous, c'est ça qui est inconcevable. T'sais. C'est pas parce qu'on a moins de personnes itinérantes de notre côté que ça veut pas dire qu'on n'a pas de besoin à combler. Je comprends qu'il y a une majorité qui est à Montréal, mais ceux en région sont existants puis on doit prendre soin d'eux aussi.
La DG a rappelé que l'itinérance peut frapper plus rapidement qu'on le pense.
Le milieu est de plus en plus fragile. La classe moyenne s'effrite de plus en plus. Les gens sont de plus en plus vulnérables. Il nous faut plus beaucoup de choses pour basculer vers l'itinérance. Si on regarde au niveau des personnes plus âgées, ils ont à faire des choix entre leur médication, l'alimentation puis le logement. Fait que, à un moment donné, c'est un ou l'autre puis ça fait que les gens s'en vont. Notre population, on doit en tenir compte à toutes les étapes de la vie, puis avoir un toit, on est dans la base.
Pour le PTS de la région, le dossier santé numérique est très loin d'être parfaitement compris. Il y a maintenant un peu plus d'un mois que ce nouveau système a été instauré dans les établissements de Santé Québec, Mauricie et Centre du Québec universitaire. Selon la représentante nationale de l'APTS dans la région, Véronique Nette, il y a encore des problèmes de compréhension.
C'est un système là, qui m'est rapporté comme n'étant pas intuitif. Les gens, là, à cette étape-ci, après quelques semaines, savent comment faire une note dans leur dossier. Mais tout ce qui dépasse ça, là, il y a tellement de modifications présentement aussi dans le système qui ne sont pas encore habituées, donc ça amène un délai supplémentaire.
À la mi-juin, la direction de Santé Québec en région avait souligné des gains importants dans ce processus, selon Mme Nette, met en doute.
On a aussi là, des cas qui se sont perdus. Là. Exemple, on me dit, avant, j'avais des clients avant le transfert du DSN, puis là, je m'aperçois qu'il m'en manque 5. Donc, sont passés où ces clients-là? Comment on les retrouve? Donc, pour nous, on n'est pas du tout là, à un retour à la normale actuellement.
Rappelons que ce nouveau système a été instauré pour remplacer notamment les dossiers papier. L'équipe médicale en place à l'urgence de Fortierville a maintenu dans les derniers mois un niveau de fonctionnement relativement stable. Rappelons que l'établissement de soins qui était menacé de fermeture a ajouté 2 nouveaux médecins à l'automne 2025 et un autre en mars dernier pour porter à 4 le nombre de professionnels de la santé qui sont en poste. Selon l'un des médecins pratiquants, Dr. Catherine Allen Demers, les effectifs médicaux actuels permettent d'offrir à la population des soins selon un horaire allongé et permettent aussi aux médecins de pratiquer leur métier dans de meilleures conditions.
À 4, ça permet justement là, d'avoir de la flexibilité pour l'horaire d'été, que chacun puisse avoir là, des vacances. On n'a pas de recrutement prévu là, à court terme. Il reste des postes disponibles. Il y a une ouverture de la part du CIUS là, aussi pour ça. C'est sûr que s'il y a des gens qui se manifestent, on va être ravis d'avoir des bras supplémentaires.
Depuis le 6 octobre 2025, les heures d'ouverture à l'urgence ont été prolongées, permettant l'accessibilité du lundi au vendredi de 8h à 20h, une décision bien accueillie par la population. Cependant, comme l'a expliqué Mme Allen Demers, l'équipe en place continue de mettre de la pression sur Santé Québec pour une éventuelle ouverture de l'urgence les week-ends pour le bien des patients.
Il y a des engorgements le vendredi et le lundi. Le vrai risque, c'est plutôt les gens qui ont attendu le lundi pour venir consulter. Puis à cause de ça, ils ont des séquelles. Ils disent, vu que c'est fermé, je vais attendre. Puis le vrai risque est là. C'est sûr que l'idéal, ça va être de réouvrir les fins de semaine dès que ça va être possible.
Le projet d'un nouveau CPE au village de Saint-Célestin vient finalement de franchir une nouvelle étape. Annoncé il y a environ 3 ans pour ce projet qui devait initialement être terminé à l'automne 2024, celui-ci tarde à se concrétiser en raison, entre autres, de l'instabilité du sol. La capacité portante du terrain était un problème en raison du sol pas assez solide et aussi composé de glaise. Selon le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le Centre de la petite enfance Grippette, propriétaire, demande des soumissions pour la construction d'une nouvelle installation de 44 places située rue La Charité à Saint-Célestin. L'appel d'offres a pris fin le 30 juin pour ce projet qui sera situé près de l'école Marquis. Pour le moment, le montant de cette construction n'est pas indiqué. Des 44 places, 10 seraient pour les 0 à 17 mois et 34 pour les 18 à 59 mois. Comme partout ailleurs dans la province, la région est également touchée par le nombre de reprises de logements qui a augmenté de façon considérable. Depuis 12 ans, et ce, à travers le Québec, les demandes de reprise de logements devant le tribunal administratif du logement ont triplé. En entrevue, la présidente de l'Association des locataires du Centre du Québec, Evelyne Eremans, a confirmé qu'il y a certains propriétaires qui abusent de leur pouvoir.
On pourrait dire, là, nommer ça comme une genre de tentative des propriétaires, justement, là, pour augmenter là, les loyers. Il faut comprendre que ces reprises-là ne sont pas toutes des reprises qui sont vraies, au final. Beaucoup sont faites de mauvaise foi, justement, pour kicker out le locataire, là, puis pouvoir remettre là, quelqu'un d'autre à un loyer beaucoup plus cher. Bon, reste qu'il y a des reprises de bonne foi là, qui sont faites par les propriétaires aussi. Mais tiens, nous, on en a vu beaucoup là ici, là, que c'est vraiment de la mauvaise foi. Là.
Mme Eremans a rappelé les règles que doivent obligatoirement suivre les propriétaires.
Ben, en fait, la reprise de logement, elle doit de toute façon être transmise avant le 31 décembre pour reprendre au 1er juillet. T'sais, aujourd'hui, mon propriétaire, il m'envoie une reprise de logement pour le 1er juillet, tout ça, ben c'est pas valide. Il y a vraiment des règles très claires dans le Code civil à ce niveau-là. Le locataire a toujours le droit de refuser cette reprise-là si jamais il considère là, que c'est pas fait de bonne foi, justement. Puis le propriétaire doit faire là, sa demande au tribunal à ce moment-là pour que le juge ordonne que la reprise là, elle soit fonctionnelle.
Québec solidaire n'a toujours pas de candidat officiel dans la circonscription de Nicolet Bécancour à quelques mois des élections québécoises. Appelé à réagir à l'absence d'un candidat à ce stade-ci, les instances du parti ont répondu à Via 95 qu'il était encore trop tôt pour faire une annonce et qu'il y aurait une mise à jour de la situation qui serait effectuée en temps et lieu. Rappelons qu'en mars dernier, le conseiller de la communauté abénaquise de Danac, Jacques T. Watsau, annonçait qu'il ne se présenterait pas sous la bannière QS. Et en terminant, un homme d'une trentaine d'années a été arrêté cette semaine à Pierreville alors qu'il avait en sa possession 5000 munitions de différents calibres. L'homme de 39 ans possédait aussi 8 armes à feu. Il a été arrêté à la suite d'une opération en matière de cannabis illicite et de contrebande de tabac. L'opération s'est déroulée sur le rang du Petit Bois. Le Pierrevillois a été libéré, mais devrait faire face à des accusations en vertu de la loi sur le cannabis et en matière d'armes à feu. Les policiers ont aussi saisi 1100 $ et un peu plus de 3,7 kilos de cannabis. Notons que l'opération découlait d'une enquête amorcée à la suite d'informations reçues du public. Alors voilà ce qui complète notre résumé du 7 jours en 7 minutes. Pour plus d'informations, vous pouvez aller en tout temps sur notre site web, levia.fr.